Et avec Élisane Pellerin. Bonjour, Élisane.
Bonjour.
Ah, ben là, la neige et tout ça, l'avion qui vous ramène d'Europe n'a pas pu atterrir.
Oui, voilà, la
Ouais,
neige
voilà.
est écrite pour moi ce matin.
Enfin, je blague. Mais on a fait avec la revue de presse, mais là, on commence loin dans un pays qui souffre beaucoup.
Un pays où on va pas souvent, malheureusement, et donc duquel on ne parle pas beaucoup, mais on va parler aujourd'hui de l'Ukraine. Parce
Oui.
qu'il y a un nouveau rapport de l'Amnesty International qui parle des personnes âgées, des personnes en situation de handicap qui sont très isolées à cause de la guerre et qui ont de la difficulté à avoir des services étant donné les circonstances politiques là-bas. Et donc, on en parle un peu, mais ça cause problème là, depuis plusieurs mois. Parce que les personnes n'arrivent pas à avoir des services et n'arrivent pas à avoir des contacts humains avec leur famille qui est souvent partie. Et donc, les gens se sentent isolés et ont de la difficulté à maintenir le cap dans ces circonstances-là.
Oui, puis quand la guerre frappe, on va voir les images de destruction, ainsi de suite. Mais ce sont souvent des infrastructures, des institutions qui disparaissent. On voit des images de combattants, mais y a tout le filet social aussi qui est détruit. Et puis, ce qui est particulier avec l'Ukraine, entre autres, c'est que c'est un pays qui est assez vieux. Sur 41 millions d'habitants, il y a plus de 10 millions qui ont le quart de la population qui a 60 ans, 60 ans et plus. Alors, l'Ukraine est. Y a une partie importante de la population qui est vulnérable.
Oui, on parle des lieux d'accueil qui ne sont pas adaptés. On parle aussi donc des pensions de vieillesse qui sont trop peu généreuses pour la situation actuelle qui fait augmenter les coûts de vie. On s'en doute bien au niveau de l'approvisionnement, ça devient plus difficile. Et donc, les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées se retrouvent particulièrement en situation de pauvreté en plus d'être en situation d'exclusion sociale.
Exact. Et c'est certain que dans l'actualité, maintenant, et je n'enlève rien à personne, mais c'est comme si malheureusement l'Ukraine, et là je veux dire quelque chose de terrible, on s'en devient habitué, hein, ça va faire 2 ans, là, on s'en devient habitué et puis on en parle moins. Mais
Ben c'est
pourtant.
terrible, mais c'est vrai dans l'optique où en fait, quand la nouvelle sort, il y a un choc au niveau de la population, mais éventuellement, c'est très loin de nous, hein,
Oui.
et on finit par reprendre le courant des choses et par plus trop y penser. Et c'est la même chose en fait là-bas, c'est-à-dire qu'on s'occupe des situations d'urgence, bien sûr, des gens qui sont gravement blessés, mais au niveau d'accessibilité des lieux publics ou du niveau d'interaction sociale des personnes âgées ou handicapées, malheureusement, ça passe deuxième.
Oui, exact. Alors, ça va prendre beaucoup de temps avant de rétablir la situation, même si une paix devait intervenir miraculeusement très vite. Ah, voilà. Discrimination, plus de pauvreté, moins de loisirs, moins d'embauche, plus de violence. Là, on parle d'une recherche en France qui a ratissé très large.
Oui, on parle du rapport 2023 sur les discriminations en France. Donc, un rapport qui est fait de façon autonome et qui rapporte que l'handicap est encore l'une des cinq motifs les plus courants de discrimination avec la couleur de peau, le genre, l'orientation sexuelle et l'appartenance syndicale. Donc, les personnes en situation de handicap sont encore beaucoup discriminées en France et elles sont d'autant plus à risque d'être dans des métiers difficiles, de ne pas avoir accès à un emploi et donc également d'avoir une précarité financière.
Oui, et ça, c'est si on prend ces chiffres-là, on peut les reproduire dans presque toutes les sociétés
Oui.
industrialisées, développées. Là, c'est assez courant que le chômage chez les personnes handicapées soit le double. C'est pas un
Oui,
chiffre qui nous surprend, c'est un chiffre qui nous
c'est le cas
désole, mais ça
aussi
nous
ici au
surprend.
Canada, au Québec, non?
Oui, exactement. Puis qu'une grande partie, en fait, là, ça a l'air. Je sais que ça a l'air trivial, mais l'étude parle de 40% ne peuvent pas partir en vacances. Et encore une fois, je reviens à notre discussion que Mme Anaïs Sabourin et moi avions au début de l'émission. Le loisir et la culture, ça fait partie des droits. et de ne pas pouvoir avoir de vacances, c'est très lourd à la longue. Et ça fait partie aussi de la participation sociale. Alors, cette étude-là, ben, en France, on parle beaucoup de discrimination puis d'handicap ces jours-ci. Ben, tant mieux si on en parle. Voilà.
Oui, effectivement, puis on parle de taux de pauvreté là, qui est presque au double. On parle également de taux de violence qui est beaucoup plus élevé chez les personnes en situation de handicap, particulièrement chez les femmes.
Oui.
Donc, si on met tout ça ensemble, imaginez maintenant quelqu'un qui, à la fois, une personne en situation de handicap, qui serait femme ou qui serait également une personne qui est racisée ou une personne avec une orientation sexuelle qui est plus souvent discriminée. Bien sûr, là, quand on accumule
Oui.
Ce type de
Discrimination, hein? Oui.
caractéristiques qui peuvent être discriminées, ça fait en sorte que ces personnes-là sont particulièrement à risque.
Tout à fait. Oui, on peut imaginer que c'est l'intersectionnalité, pour utiliser un terme à la mode, là, mais qui dit bien ce qu'il dit. Si vous ajoutez le handicap à d'autres situations discriminantes, hein, on va appeler ça comme ça, ben là, ça fait juste empirer
Empiré, oui.
la misère. On parle aussi de culture à Nice.
On parle de culture à Nice parce qu'il y a eu donc des nouvelles tables rondes là, sur la culture pour les personnes en situation d'handicap, donc qui a été organisée par le Conseil du développement, donc le CDD, à Roanne-les-Pins, donc avec comme invité spécial Boris Cyrulnik, excusez pour
Oui.
la prononciation. Et donc, on a parlé de justement de l'accessibilité de la culture et du droit qu'est l'accessibilité à la culture pour les personnes en situation de handicap. C'est encore quelque chose qui est à travailler en France.
Oui, tout à fait. Là, c'est j'ai remarqué cette semaine, c'est sûr que c'est une belle récolte, Élisane. Parce que pour les nouvelles cette semaine, il y en avait pas mal. Est-ce que c'est parce que c'était le 3 décembre, hier, Journée internationale des personnes en situation d'handicap? Probablement, mais enfin, on sait bien de voir que ça bouge. Et c'est intéressant parce qu'avec ce dont nous parlions de ne pas pouvoir prendre de vacances ou l'accessibilité à la culture au Saguenay, eh bien voilà qu'à Nice, on parle aussi de culture pour les personnes en situation d'handicap. Alors là aussi, souvent, l'accessibilité est, je dirais, faible ou inexistante, mais c'est important d'en parler. C'est pas juste d'avoir une rampe ou une porte automatique, l'accessibilité.
Non, en fait, on parle de toute l'accessibilité sociale et il y aura un groupe de travail là, qui rendra ses conclusions à la fin de l'année ou au début de 2024 pour essayer de trouver des solutions par rapport à ces discussions-là qui ont lieu en France.
Exact. Le conférencier dont vous parliez, Boris Cyrulnik, qui est un auteur à succès en France, qui a beaucoup écrit, entre autres, sur la résilience.
Vous le prononcez beaucoup mieux que moi.
Ben, je me suis pratiqué tout le week-end.
Voilà.
Et voilà. Bon. À Genève, ah, la belle ville. À Genève, l'Organisation internationale du travail.
Oui, il y a l'Organisation internationale du travail qui a qui a sorti une étude, donc, pour l'intégration, pas une étude, pardon, mais un manuel pour l'intégration des personnes en situation de handicap sur les lieux de travail. Donc, on parle de l'OIT quand même. Associé à l'ONU, donc un organisme qui a beaucoup de poids, qui vient de sortir donc il y a un manuel pour essayer d'expliquer des recettes gagnantes pour les employeurs qui voudraient entrer plus comment je dirais bien sûr,
Favoriser, oui.
favoriser, oui, l'entrée au travail de personnes en situation de handicap, ce qui est un problème, on le dit en France, au Canada et un peu partout, hein, dans les sociétés industrialisées. Donc, ce nouveau manuel-là donne des recettes gagnantes qui ont été essayées par des compagnies qui ont réussi l'intégration au travail de personnes en situation de handicap.
Oui, on parle de 30 multinationales. Qui
Oui.
font part de leur recette gagnante, si je peux dire, de leur pratique intégrée maintenant dans leur milieu pour permettre l'intégration donc des personnes en situation de handicap dans le travail. Alors, je dirais le rapport, ou la publication plutôt, s'appelle Business Leading the Way on Disability Inclusion, a Compilation of Good Corporate Practices. Voilà. Alors, je suis sûr que ça se traduit très bien en français. Et vous allez, quelqu'un qui, ou un employeur qui veut, ou un organisme qui veut aller sur le site de l'Organisation internationale du travail, encore une fois affiliée aux Nations unies, pourra y trouver le document parce qu'il s'agit d'aider les employeurs. Les suggestions couvrent tous les aspects de l'emploi, l'accessibilité des processus de recrutement, la formation des compétences, aux compétences appropriées, la sensibilisation, l'accessibilité des infrastructures physiques et numériques, les ajustements raisonnables. Voilà, donc c'est quelque chose qui serait peut-être bon de retrouver sur le bureau des décideurs ici.
Oui, effectivement, quand on parle qu'environ une personne sur six dans le monde est atteinte d'un handicap, et comme on le disait, que quand même une large proportion là, sont sur le chômage ou sur des programmes gouvernementaux qui sont similaires, on manque notre coup un peu dans l'intégration et on laisse partir des talents qu'on ne devrait pas laisser partir par manque d'inclusion au travail.
Tout à fait. Alors, on peut penser que d'une part, c'est de la productivité qui est perdue parce que ces talents-là sont gaspillés. Puis d'autre part, ça inclut, ça augmente les coûts sociaux parce que ces personnes-là sont à ce moment-là plus vulnérables, n'ont pas de moyens financiers et vont se retrouver plus lourdement, je dirais, à la charge de l'État. Alors, l'État gagne à être déresponsabilisé de personnes qui deviennent autonomes et les employeurs y gagnent parce qu'on augmente la productivité. Alors, toute la logique est
tout
là.
Tout le monde est gagnant.
Ben oui, tout à fait, tout à fait. À Lyon, ah, voilà, on est à Genève. Évidemment, Genève, comme vous le savez, Lisanne, c'est le début, la source du Rhône, fleuve qui coule par la suite vers au travers de la France en direction sud jusqu'à la Méditerranée, en passant par Lyon. Alors, si on est à Genève, à l'Office international du travail, on peut rapidement se laisser porter par les flots et on arrive à Lyon, où il y a un hôpital spécialisé qui est en danger.
Je savais ça.
Ah! La géographie ici, oui.
On parle, oui, d'une pétition qui demande au maire de Lyon d'empêcher la fermeture d'un hôpital spécialisé en handicap. On parle de l'hôpital Henri-Gabriel de Saint-Genis-Laval qui se bat pour ne pas fermer ses portes depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant. On envisage son déménagement et le transfert des patients, mais ça porte un coup donc à la qualité des soins des patients en situation de handicap puisque cet hôpital-là est très spécialisé
reconnu.
En ouais. Situation de handicap lourde.
Oui, exactement. Et c'est un hôpital qui existe depuis longtemps, spécialisé dans les situations de neurodégénérescence ou de handicap lourd. Et là, ben, pour des questions d'efficacité, on veut fermer l'hôpital, éviter de devoir rénover les lieux et déménager tout le monde à un hôpital psychiatrique qui est un peu dans une sorte de quartier de l'hospitalisation. Là, il y a une levée de bouclier, justement, pour défendre la spécificité de l'hôpital Henri-Gabriel et qui il y a une pétition qui est lancée à Lyon pour le protéger, hein? On va dire ça comme ça.
Oui, donc les coûts des rénovations sont quand même élevés, donc l'État ne voudrait pas se lancer dans tout ça, mais il y a quand même une solution, donc ça existe, on pourrait le faire. Mais il faut bien sûr que l'État accepte les coûts qui sont plus élevés qu'un déménagement.
Exactement. Il y a toujours ça vient toujours au bout à la volonté politique. Hein?
C'est toujours.
Oui, c'est vrai. Ça finit toujours. Ben, il y a ça. Puis ben, au bout du compte, ça dépend de la volonté politique. Une belle petite histoire de handball. Handball adapté, hein, pour finir
sur une bonne note. Oui, quelque chose de moins lourd. Donc, ouais. À Montoire sur le Loir, on montre un exemple avec du handball adapté. On a fait une section qui s'appelle Hand ensemble, donc Hand handicapé ensemble, pour permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer un sport de façon adaptée. Donc, ces gens peuvent venir se joindre à l'équipe pour pratiquer un sport avec l'équipe qui est déjà sur place. C'est quelque chose qui a été salué, donc, au niveau national. Ils ont eu le troisième prix du trophée des cubes pour leur initiative d'inclusion des personnes en situation de handicap.
Ben ça, c'est bien. On connaît le basket en fauteuil roulant, mais moi, je n'avais pas encore entendu parler de handball en fauteuil roulant. Alors ça doit être intéressant. Le handball, c'est un jeu simple, hein, parce que le ballon passe d'une main à l'autre, mais on peut imaginer les adaptations nécessaires pour le pratiquer. Alors bravo à Montoire-sur-le-Loir, hein, une petite commune d'à peu près 3 600 habitants. Bravo. Après la pause, on va revenir puis on s'en va dans l'Ouest. Rebonjour Élisane. Non seulement on revient de ce côté-ci de l'Atlantique, mais on traverse une bonne partie du pays puis on s'en va à Calgary.
On s'en va à Calgary où une étude de l'Université de Calgary a sorti que 35 % des bâtiments cartographiés de la ville sont accessibles, donc à peine un peu plus du tiers.
Oui, ben, oui, tout à fait. C'est pas beaucoup, 35.
Il y a la ville de Calgary qui se retrouve troisième sur trois, hein. Il y a trois villes qui ont été étudiées, Vancouver, Ottawa et Calgary se retrouve bonne dernière.
Oui, puis je serais curieux de voir des résultats pour d'autres villes comme Toronto, Montréal, Québec, ainsi de suite. On peut penser. Vancouver a depuis longtemps une bonne réputation en termes d'accessibilité, là. Peut-être à cause du projet Rick Hansen. Ottawa, évidemment, il y a peut-être l'influence du gouvernement fédéral dans les édifices publics, mais 35 %, c'est pas beaucoup. Puis cette étude-là, ça fait partie d'une recherche à plus long terme, plus large.
Oui, ça fait partie d'une recherche donc qui va continuer. On parle également que les bâtiments reliés aux soins de santé aux soins personnels, à la finance, aux vêtements de sport, aux magasins de sport et aux vêtements, oui, sont les plus accessibles, alors que les services éducatifs sont ceux qui sont les moins accessibles. Donc,
Oh,
ce serait
OK.
difficile d'avoir des soins éducatifs. D'avoir, pardon, des services éducatifs dans la ville de Calgary pour les personnes en situation de handicap.
Oui, parce que puis c'est pourtant l'éducation, c'est par là que ça commence. La recherche qui s'appelle Mapping Our Cities for All, MOCA, hein, comme le café MOCA, c'est une recherche de l'Université de Calgary, la plus grande initiative de recherche sur l'accessibilité menée au Canada. Et cette étude-là va servir de base de données, justement, dans le cadre de la politique du gouvernement fédéral de rendre le Canada complètement, parfaitement accessible en 2040. Alors, on aimerait bien y arriver le plus rapidement possible. Les personnes en situation de handicap au Québec, ça n'a pas bien été et c'est difficile encore avec les grèves du Front commun.
Oui, les grèves qui touchent les personnes donc de la santé et donc les personnes qui reçoivent des soins de santé à domicile qui sont impactées par la grève parce que évidemment il y a beaucoup moins d'employés qui sont disponibles malgré le fait que ce soit un service jugé comme étant essentiel. Donc, dans les derniers jours, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints du manque de services. On parle de gens qui ont été obligés de rester alités toute la journée, des personnes qui ont pris leurs médicaments du matin tardivement au milieu du midi ou en après-midi par manque de services. Et c'est quelque chose d'inquiétant, bien sûr, parce que ces gens-là, évidemment, ont besoin de services pour leur santé. Ça pourrait créer des problèmes de santé et évidemment, ça crée aussi des malfonctionnement dans leur
Tout
journée,
à fait.
puisqu'ils sont tout à fait dépendants des personnes, des auxiliaires de santé qui viennent à la maison. Et la situation de grève, donc, qui semble vouloir perdurer dans les prochains jours et qui cause certains problèmes aux personnes en situation de handicap qui sont particulièrement vulnérables.
Tout à fait. Et là, il faut se comprendre, cette histoire remonte entre autres à un cri d'alarme lancé par Exequo, un organisme de défense des droits des personnes ayant une déficience motrice. Et là, la question n'est pas je dirais, de poser une opinion au sujet de l'à propos de la grève, mais c'est au contraire les revendications des auxiliaires dont les conditions de travail ne sont pas assez attrayantes pour combler les nombreux manques dans le réseau. Voilà ce que dit Exequo.
Donc,
Alors,
Execo qui se place en faveur de la grève et qui dit que la situation perdure depuis longtemps parce que justement les conditions de travail rendent des services inefficaces aux personnes en situation de handicap, mais disent quand même qu'il faut sonner l'alerte, hein, pour
Tout à
que les
fait.
choses se placent dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, pour éviter une détérioration des services.
Exactement. Et en terminant, la ministre de la Diversité et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Kamal Khera, lance une grande consultation auprès de tous les Canadiens pour étoffer la réglementation qui va être mise en place suite à l'approbation de la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap. Vous avez jusqu'au, voici la date, 21 décembre pour faire part de vos commentaires et idées via le site web de Emploi Développement Social Programme Prestations Canada. Alors, vous pitonnez sur votre ordinateur, gouvernement du Canada, situation d'handicap, consultation, réglementation, prestations canadiennes des personnes handicapées. On reviendra là-dessus la semaine prochaine parce que je pense que ça vaut la peine que tout le monde soit au courant de cette affaire et nous parlerons également de d'autres sujets quand nous aurons le temps de se revoir, de se reparler lundi prochain. Voilà, je m'en voudrais de ne pas souligner le 5 à 7 jeunesse sur la défense de vos droits à l'INCa, pardon, pour les 18 à 35 ans. C'est ce jeudi 7 décembre, alors c'est dans quelques jours, à 17 h, sur la rue Parthenay au 2085 Parthenay, Montréal, là où le hub de l'INCa a pignon sur rue. Il va s'agir de 30 minutes de discussion informelle. Et évidemment, avec des gens qui sont tout à fait, je dirais, dans le bain, il va y avoir, entre autres, Catherine Houde, juriste, qui va nous parler, qui va expliquer aux jeunes les droits, la défense des droits et toutes ces choses. Voilà. Nous avons le plaisir, juste un instant, oui, nous avons le plaisir de... Trois, voilà. Merci, M. Tessier. J'avais perdu le décompte. Bonjour, Élisane. Je pensais que je me sentais bousculé. Vous savez-vous, c'était ma faute.
Oui,
Voilà.
ben voilà, je trouvais que vous vous sentiez beaucoup bousculé
Ben oui,
pour pas
pourquoi?
grand-chose, mais je n'osais pas intervenir, François,
Ben, vous avez bien fait de...
d'autant plus que je suis à distance, donc qui suis-je
Oui,
pour
voilà.
intervenir?
Ah, ben non, mais c'est plutôt moi, là, qui a peut-être des problèmes de chronomètre, mais ça nous permet de parler de ce qui se passe à Saint-Hyacinthe.
Ça nous permet de parler de ce qui se passe à Saint-Hyacinthe, oui.
Le
Si
ministère
je
des
me retrouve.
Transports, oui.
Oui. Donc, le ministère des Transports, donc, qui alloue une aide financière quand même considérable, un peu plus d'un million de dollars à la MRC pour soutenir son transport adapté. On parle donc d'une augmentation de 260 000 dollars par rapport à l'année dernière. Ça représente 45 % des coûts totaux des dépenses annuelles du transport adapté. Donc, ça va pouvoir aider à offrir un meilleur service ou à tout le moins de continuer à offrir un service de transport adapté dans la MRC.
Oui, tout à fait. L'an dernier, la MRC des Mascoutins, on parlait de plus de 63 000 déplacements en 2022. On s'attend à ce que ça touche presque les 75 000 transports cette année, en 2023. Alors, ça, c'est important. Maintenant que je sais que j'ai du temps, ah, ça va me faire plaisir de vous dire, avec un peu plus de précision, d'aller d'ici au 21 décembre sur le site web du ministère de l'Emploi et du Développement social. Et vous y allez et vous entrez le mot-clé consultation, règlement, prestations canadiennes, personnes handicapées. Et ainsi, vous aurez accès à un questionnaire. Le ministère veut connaître notre opinion, nos idées au sujet de la prestation canadienne qui va être mise en place au courant de l'année 2024. La prestation a été approuvée comme par loi, mais il reste encore toute la réglementation à mettre en place. Bien, merci beaucoup, Élisane, de votre patience malgré mes dérapages chronométrés. Merci.
C'est la neige, François, c'est la neige.
C'est gentil, oui, ça doit être la neige. Merci à Claire Guérin, notre recherchiste, et à Mathieu Tessier, toujours au poste, plein de bonnes idées, d'excellente musique et qui ne m'en veut pas trop, j'espère, d'avoir mal entendu ses directives.
Il va s'en remettre.
Oh oui, à la semaine prochaine, tout le monde.
Bye bye.